C'est là, quoi?
Ça fait c'est compliqué quand même. Non, c'est vrai. Bnei Bani, même Kebani, toi t'es passé, tu savais pas ce qu'il y avait de la lumière. Ça va?
J'ai commencé par ça. Ma belle-mère, j'ai trop peur.
Donc, alors, le grand problème, c'est quoi dire? Parce que d'un côté, il y a une personne qui m'a dit, bon, tu dis pas la même chose, parce que voilà. Après, une autre personne qui me dit, non, tu dis la même chose parce que j'ai kiffé. Nounou, alors on va essayer de faire un mix. D'accord? On va dire un peu de la même chose et un peu de pas la même chose. Il y a une grande question par rapport aux 10 jours qui vont s'ouvrir dès demain soir. On parle d'Aseret Yemei Teshuvah. Et j'aimerais commencer par une phrase qui est apparue pour la première fois en France il y a à peu près 1000 ans. Eh oui, dans une petite région, pas très loin de Paris, qui s'appelait Vitry-le-François. Tu connais Vitry-le-François ? Bah, il y a quelque chose là-bas. Ce qu'il y a quelque chose là-bas, c'est qu'il y a l'élève de Rashi. Et Rashi, son élève, il va écrire un bouquin qui, en fait, reprend toutes les minagim qu'il a appris de Rashi. Et ce bouquin, il va l'appeler Marzor Vitry. En fait, le Marzor Vitry, c'est juste que c'est le diminutif de Vitry-le-François. C'est-à-dire ? Et dans le Marzor Vitry, il y a une phrase très bizarre qui dit, écoutez bien la phrase, « Na'agu la'asot teshuva be'aseret yame teshuva ».
C'est un pléonasme, ça.
Alors, c'est un pléonasme. On a pris l'habitude de faire teshuva pendant les 10 jours de teshuva. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les 10 jours de teshuva qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas teshuva. Alors, on a pris l'habitude. 100 ans plus tard, arrive le Rambam et dit « L'amrot sha tshuva va tzaka yafa leolam » c'est toujours bien de crier vers Dieu et de revenir vers Dieu « Yafa beyoter ba sara yamim sheben rosh hashana le yom kippouri » elle est encore plus entendue, cette tzaka, entre les 10 jours, entre rosh hashana et yom kippour. Et en fait, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que ces 10 jours-là s'appellent les 10 jours de teshuva alors même qu'on n'est pas forcément en train de faire teshuva? De quoi parle-t-on? Alors d'abord, que les choses soient bien claires, quand on parle de 10 jours de teshuva, toutes les traductions sont mauvaises. Il y en a qui parlent de jours redoutables. Il y en a qui parlent de jours de pénitence. Pénitence, c'est pas mal. Le meilleur que j'ai vu, c'est dans un marzor belge, bien ashkénaze comme il faut. Dans un marzor belge, ashkénaze, bien comme il faut, c'est-à-dire en mode rasra ultime, où ces 10 jours de la, comme ça, de Rosh Hashanah, Yom Kippour, s'appellent, attention, tenez-vous bien, les fêtes austères. Les fêtes austères. Ça veut dire les jours rasra. En fait, c'est ça que ça veut dire, c'est la traduction. Ça veut dire, Aseret Yemei Teshuvah, mazé. Et avant de comprendre Mazé, à qui appartiennent-ils? Il y a un klal, un principe dans la Gemara, dans la Halakha, qui dit « Kidrei de Beshutfei, lo kerire velochmime ». Vous savez, quand on cite des phrases en araméen, c'est pour faire genre « je me la pète » et tout, t'as vu, je connais bien par cœur et tout. Une casserole qui appartient à deux shutafim, partenaires, elle n'est jamais chaude, elle n'est jamais froide. Parce que lui, il veut cuire des pâtes. Lui, il dit non, je suis en train de préparer, je sais pas, un truc qui doit être au frigo. Lui, il dit non, je vais aller au frigo. Lui, il dit non. Comme on dit en arabe, nishtahin, nishtahel, ce qui veut dire pas vraiment là, pas vraiment là. En fait, ça veut dire que c'est à personne. Et la question est la suivante. Les 10 jours de Teshuva, à qui appartiennent-ils? Est-ce qu'ils appartiennent à la nouvelle année, qui s'ouvre avec Rosh Hashanah? Ou est-ce qu'ils appartiennent à l'année suivante? L'année précédente. Est-ce qu'ils appartiennent à l'année qui s'ouvre ou à l'année qui précède? C'est une bonne question, ça. Quand on regarde la tefila de Rosh Hashanah, la tefila de Rosh Hashanah ne parle absolument pas du passé. Shum davar klum. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de tshuva à Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon, on ne fait pas de vidouille, on ne revient pas sur nos actions qu'on a pu faire, rien du tout. Rosh Hashanah, on parle uniquement de Mikan Vaelach. On va dire dans la tfilah chez les Ashkenazim, dans une prière qui s'appelle Unetanet Tokef. Wow. Ouais, j'ai rien que j'ai dit Unetanet Tokef et.
Même les Marocains,
ils font ça aussi.
Ah il y a certains Marocains qui.
Ah ben
tellement fort que.
Non, Unetanet Tokef, c'est quoi? C'est une tfilah où on vient exprimer à Kadosh Baruch Hu qu'on sait que c'est lui le patron Et que donc c'est lui qui va décider mi yihye, mi yamut, mi bekitso, mi lo bekitso, mi bamaim, mi baesh, mi batsama, mi barav. C'est voilà, c'est toi qui décides pour l'année qui vient. Donc Rosh Hashanah, c'est une, on ouvre l'année qui commence. Yom HaKippurim, on termine l'année qui vient de s'écouler. On n'arrête pas de revenir sur tout ce qu'on a fait. Al-Khet, 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 Shechatan, Olefanecha, quand ? Bah, toute l'année. Donc, si Yom Kippour vient fermer l'année, et que Rosh Hashanah vient ouvrir la nouvelle année, bah, les 10 jours entre les deux, ils appartiennent à qui ?
Hein ?
No Man's Land, hein ? Ils appartiennent à la nouvelle année ou à l'année qui vient de s'écouler ? Bah, c'est ça toute la question. Est-ce que c'est No Man's Land ? Im ze No Man's Land, alors, Kidre de Beshutfei, Loch Mime, Velokrive, une casserole qui appartient à deux partenaires, elle est ni chaude ni froide. Elle appartient à personne. On ne peut pas l'utiliser. Combien de jours il y a dans l'année ? 365. Allez, 365, virgule quelque chose. Et des poussières. Non. 364. Non, non, je crois que c'est 365, virgule quelque chose. Non, c'est 365, virgule, je sais plus, 3 et quelque chose. Mais ça, voilà, mais ça, c'est l'année solaire. Et l'année lunaire, combien de temps elle dure ? Elle dure que Minya Namila Shana. Shana en Gematria, c'est combien ? 355. Et des poussières. En fait, 354,7. Et l'autre, c'est 365. Alors, on arrondit. 365 et l'autre 355. Tiens donc, entre l'année lunaire et l'année solaire, il y a Asara Yalim. Ou pas ? Donc il y a 10 jours de toute façon qui doivent faire le pont entre les deux années. Et le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire ou solaire ? Les deux, mon capitaine. Donc, non, et solaire. C'est pas que lunaire. Les musulmans, ils font que lunaire. Mais nous, on est avec solaire aussi. Des fois, on rajoute un mois pour rattraper. Donc on a les deux, donc on a besoin finalement des deux, et donc il y a 10 jours, Shem lo sham ve lo sham. Donc s'ils sont ni là ni là, ils sont me'al azman. Ce sont 10 jours qui ne sont pas dans le temps. Et donc s'ils ne sont pas dans le temps, eh ben on peut faire teshuva dans ces 10 jours, parce que c'est quoi faire teshuva ? C'est une machine à remonter le temps. La teshuva, c'est revenir au moment où j'ai fait la faute, et dire cette faute, j'en veux plus. Zelo sheli. Et ça, c'est très très bizarre cette histoire. Ah, parce que venez, soyons sérieux 5 minutes. J'ai fait quelque chose. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose, disons, j'en sais rien moi, j'ai volé du café à la Macolette. Ok ? J'ai volé du café à la Macolette. Je fais tchouva. D'accord, mais j'ai quand même volé le café à la Macolette. Mazelo Sheli. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a, dans le livre de Bereshit, un épisode qui, s'il avait été mis en film sur Netflix, ça aurait fait pleurer dans les chaumières. Moi, je l'ai vu en film, parce qu'il y a une série franco-italienne qui date des années 90, qui s'appelait La Bible.
La quoi ?
La Bible. Ils ont fait une série comme ça, alors c'est des bons chrétiens, évidemment, mais toute la partie sur la Torah, franchement, elle est pas mal. Bon, ils ont fait un épisode sur Bereshit qui veut rien dire. Mais après, il y a deux épisodes d'une heure et demie sur Abraham. Franchement, il n'y a presque aucune erreur. Un épisode sur Yaakov, pas mal du tout. Un peu trop romancé à mon goût, mais pas mal du tout. Deux épisodes sur Yosef, très très bon. Et deux épisodes sur Moshe, au top. Le meilleur, la meilleure version filmée des 10 commandements. C'est après, Cécile B2000, bon, voilà. Terme de pitch hollywoodien, voilà. Il y a la version dessin animé, celle-là, c'est la version la plus. Tu t'y croirais. Alors, c'est-à-dire, il y a eu un film comme ça, mais dans cette série-là, la rencontre entre Yosef et ses frères après 20 ans, quand il est devenu vice-roi d'Égypte, elle est un peu émouvante. Je me dis que si on prenait les droits et qu'on en faisait un truc sur Netflix ou sur Amazon Prime ou quelque chose, je pense qu'on peut faire pleurer dans les chaumières, hein. T'imagines Yosef qui retrouve ses frères et tout, machin. Et bien, quand Yosef retrouve ses frères, qu'est-ce qu'il leur dit ? Il leur dit, bon, vous inquiétez pas, vous m'avez vendu ici, bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui voulait pourvoir à nos besoins, machin. Deux versets plus tard, Lo atem mechartem oti. C'est pas vous qui m'avez vendu. Bah, c'est deux versets, t'as dit, c'est vous m'avez, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe entre les deux versets? Eh bien, les frères font tchouva. Les frères font tchouva. Et alors quoi? Ben, c'est pas qu'ils effacent la faute. Parce que l'action est toujours là. Ouvda, Yosef, il est toujours en Égypte. C'est-à-dire que c'est pas, on remonte. Vous savez, quand on a pu regarder. Alors, attends, il y a Michael Gamrasny qui m'appelle. Qu'est-ce qu'on fait? On ne lui répond pas, non? Ouais. Quand tu regardes Retour vers le futur, un film fondamental de la pop culture, quand ils retournent dans le passé, s'ils font changer quoi que ce soit, ça va changer le cours des choses. Donc là, tu me dis, ils ont fait tchouva. Ben alors, directement, Yosef, il ne devrait plus être en Égypte. Et toute l'histoire. Ben non, tu vois qu'il est toujours là-bas et qu'il n'y a pas de problème. Et là, tu fais tes tchouva. Et là, c'est plus à toi. Alors, c'est à qui? Nous dit le Rav Kook, dans Rota Teshuva, dernier chapitre de Rota Teshuva, que les choses soient claires. Il commence comme ça en disant que les choses soient claires. Le seul et unique responsable de ta faute, c'est toi. Tu ne peux pas la mettre sur quelqu'un d'autre. C'est Ata Achai. Tu as le libre arbitre. D'après le judaïsme, on croit au libre arbitre. Donc, c'est toi qui es responsable de ta faute. Point. Toi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Kadosh Baruch Hu, peut-être que c'est lui qui m'a fait faire ça. J'ai mon libre-arbitre, j'ai pas mon libre-arbitre. Dis d'abord que tu saches que c'est de ta faute. Et dans le vidouille que tu vas faire dans ta tchouva, Yom Kippour, tu dis Khatati. Ani. Ani Khatati. Aval. À partir du moment où tu fais tchouva, alors qu'est-ce que tu dis dans ta tchouva? Tu dis cette faute-là, je n'en veux plus. Ça veut dire, si jamais j'avais pu revenir dans ma time machine, je serais revenu et je l'aurais pas fait. Ah oui, mais moi, Dieu, je veux que cette action existe dans l'histoire. Parce que j'ai mon plan. J'ai envie que Yosef soit en Égypte. Pourquoi j'ai envie que Yosef soit en Égypte? Parce que Yosef, celui qui peut amener la Kalkala, qui peut amener la Kdusha par la Kalkala, j'ai besoin qu'il soit là-bas. Et j'ai besoin que le monde entier y comprenne qu'est-ce que ça veut dire. J'ai besoin que Yosef soit là-bas. Ah, vous voulez pas vous le faire? Pas de problème, moi je le fais. Et donc en fait, quand tu fais tchouva, tu viens dire moi j'en veux plus. Alors Dieu, il te dit, ben c'est d'agamant. Donc Zécheli. C'est plus à toi, Zécheli. Mais oui, d'accord, mais moi j'ai fait l'action. Nachon, mais maintenant que tu n'en veux plus, tu peux te considérer comme étant mon bras à moi. C'est ce que nous dit la Gemara, hein? Que Gedola Teshuva, Sheoferchet Zdonot Lishgagot. Très bizarre. La Teshuva, elle est grande, elle permet de transformer les fautes volontaires en fautes involontaires. Bon, ça, je comprends. Parce que si je fais Teshuva, peut-être que, en fait, si j'avais mieux compris, j'aurais peut-être pas fauté. Donc c'est shogeg un peu. Seulement la Gemara continue à dire oui, mais attends, il y a une autre tchouva qui est encore plus grande. Chez Ofechet Zdonot, les frouillotes. Ça transforme mes fautes volontaires en mérite. C'est un mérite. Ben oui, c'est quand tu as fait tchouva, mais à Ava. Le premier qui transforme en truc, c'est tchouva mi'ira. Si j'avais su que j'allais me prendre le four 17 au Geinam, alors j'aurais pas fait. Ah, ça d'ailleurs, t'as peur du four 17. Je comprends. C'est shogeg. Mais tu vois, mais Ahava, hein, c'est de dire, non mais attendez, t'as pas compris. Moi, je veux être en contact avec Dieu. Je veux faire ce que Dieu, il veut. Pourquoi? Bah parce que j'ai envie d'être... C'est mon papa, c'est mon grand-père, c'est mon papy, c'est ce que tu veux. Je le kiffe. Et j'ai envie de faire. Ah, donc ça veut dire que maintenant, ton action, tu la mets au diapason avec la volonté divine. Azelo shelcha, azelo. Et le mérite, il est pour toi. Donc en fait, Aseret Yemetshuva, c'est le moment où je viens dire... Puisque ces journées-là n'appartiennent à personne, j'ai ni fauté, ni pas encore fauté. Je suis dans une bulle complètement à part. Je peux faire ce que je veux là-bas. Ces 10 jours-là sont Berosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce n'est pas juste le jour de Rosh Hashanah. C'est toutes les journées des 10 Aseret Yemei Teshuva qui sont Berosh Hashanah. Ils font la transition entre les deux années. Et c'est pour ça que toutes les brachot de l'année, elles sont Berosh Hashanah. Vous avez remarqué que c'est la seule fête qui est au début du mois. Alors, normalement, les fêtes, c'est le 15 du mois. Et ne me dites pas, non, Shavuot, c'est le 6. Shavuot, ce n'est pas une fête en soi. Shavuot, c'est la fin de Pessah. Donc, elle a commencé le 15 du mois, 50 jours avant. C'est-à-dire, donc, c'est la seule fête qui est au début du mois. Comment c'est possible? Une fête, en début de mois, on ne voit pas la lune. Nachon, bakese le yom chagen. C'est bakese, bayom shayareach mitkase, mitkasa. Elle se cache, on ne la voit pas encore. Et alors quel rapport? Eh bien, nous dit la Gemara, En haberacha asheruya, ela bedavar asamui mina'ayn. La bracha, elle se trouve dans ce qu'on ne voit pas. Une fois que c'est déjà visible, pourquoi est-ce que la bracha, elle se trouve, pas qu'elle se trouve plus, mais que ça y est, c'est sorti. Donc maintenant, c'est une réalité concrète. Mais tant que c'est encore caché, alors tout peut encore se développer. Léat, léat. Quand une équipe, elle se prépare et elle s'entraîne à huis clos, elle ne veut pas que tout le monde voit, on peut préparer des stratégies, ce que tu veux. Une fois qu'on est sorti dehors, on est sorti dehors. Donc, la bracha, elle est à l'intérieur tant que ce n'est pas encore dévoilé. Ça tombe très bien, parce que Rosh Hashanah, c'est justement le moment où tout se prépare à l'intérieur. Oui, vous aurez remarqué que Rosh Hashanah marque, on le voit très bien en Israël, marque le début de l'automne. Aaron, c'est Tishrei, c'est le début de l'automne. Maintenant, le début de l'automne, qu'est-ce qui se passe en automne? Tout est en train de mourir. En fait, c'est pas en train de mourir. C'est en train de retourner se cacher à l'intérieur pour se développer et ressortir au printemps. Ah ah! Donc ça veut dire que la naissance, c'est quand? C'est au printemps ou en automne? Ben, c'est au printemps. La naissance, c'est au printemps. Mais la mise en place, c'est à partir de l'automne. Et ça tombe très bien. Parce qu'il y a une grande question de savoir bah, la naissance du monde, c'est quand? Ah. Bah oui, vous savez bien que... Alors, si vous... Viens, viens, on dit que 6 jours, c'est le package. Il y a 2 rabbins qui se disputent là-dessus. Tu les connais, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah. L'un dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah, en Tishrei, donc 6 jours avant. Hein. Mais l'autre, il dit en Nissan. Et Rabbi Noutam, Betosfot, nous dit, en fait, vous n'avez pas compris. Le monde est né en Nissan, mais il est tombé enceinte à Rosh Hashanah. C'est le héraïon du monde. C'est la grossesse du monde. Tout est caché. Tout est en train de se mettre en place. Zabracha, chez Ishruya, Bedavar, chez Samui Minaïn, tu vois pas. C'est comme l'automne, tu vois pas que tout est en train de se mettre en place dans les racines pour sortir après au printemps. Rosh Hashanah, c'est le moment où le monde il est tombé enceinte, Kivyachol. C'est pour ça que, je sais pas si on dit aussi chez vous les Tsfaradim, mais chez les Ashkenazim, on va dire quand on sonne le shofar, Ayom, Aratolam, c'est Aratolam. Hérayon. Ayom aratolam, c'est Hérayon. Ça, on le dit tout le temps. Donc, c'est-à-dire que le monde est en train de se mettre en place, mais rien ne se voit. Et pourtant, tout est là. Et bien, c'est exactement ça, Aseret Yemei Teshuvah. C'est le moment où tout est mis en place, mais il n'y a encore rien qui se passe. Enfin, tu ne le vois pas. Ouais, mais moi, j'ai envie de le voir quand même. Ça, moi, j'aimerais bien. Voilà, la gestation, c'est bien, mais... J'ai envie de serrer le bébé dans mes bras, j'ai envie qu'il se passe quelque chose. Donc on t'a dit, Nachon, t'as envie qu'il se passe quelque chose, t'as envie d'avoir un Seret Yemei Teshuvah où tout n'est pas caché. Où t'es pas obligé de faire les slichot pendant la nuit. C'est fantastique, les slichot pendant la nuit. Pourquoi on fait les slichot pendant la nuit? Bah, c'est un peu une tannée, faut dire les choses telles qu'elles sont. Pourquoi on fait pas les slichot à midi?
Les 7h.
Hein? Ah, 7h. Il y a une dimension d'intimité dans la nuit avec Akadosh Baruch Hu. Personne ne me voit. On est entre nous. Il y a des rabbanim qui ont beaucoup de mal avec les slichot, tu sais, avec 10 000 personnes au kotel et beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que tu perds cette dimension d'intimité avec Ribono Shel Olam. D'un autre côté, il y a Choliot qu'aujourd'hui on a besoin de cet engouement.
Berovam
Adrat Melech. C'est-à-dire que peut-être que c'est justement une dimension de Géoula hein, qui veut transformer Rocher le Or. On se comporte à minuit comme si on était à midi. Parce qu'en fait, quand on regarde de près, les slichot aujourd'hui, quand tu fais slichot Karlibach ou quand tu fais slichot au Kotel, c'est fantastique, quelqu'un m'a demandé, dis-moi, slichot au Kotel, c'est que Sfarad? Je dis ouais. Non mais c'est fou. C'est-à-dire, on réfléchit 2 secondes là-dessus. Il n'y a pas de slichot au Kotel Ashkenaz, ça n'existe pas. Il y a eu une mainmise total du monde séfarad, c'est ça, comme tu as commencé avant, on te dit yalla. Yalla. C'est possible. Mais qu'en irait qu'il y a de ça. Qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces slichot-là? Qui vient aux slichot? Et j'allais dire, particulièrement parce que ce sont les slichot séfarad. Si ça avait été les slichot. Si ça avait été les slichot ashkenaz, qui aurait été là-bas? Les dosim. Qui c'est qui vient en slichot Ashkenaz le soir? Ashkenaz. Ashkenaz, les religieux. Les religieux plus. Ça va? Mais qui vient en slichot Sfaran? Le monde entier. Particulièrement celui qui, dans le reste de l'année, ne va nulle part. Il y a une dimension de Mahamad Akel dans les slichot. Une dimension de Berova Madrat Meler qu'on vient et qu'on transforme la nuit en jour. Et on crie à tue-tête, il y a les haut-parleurs dans tous les sens, on sonne du chauffard comme si c'était la journée de Rosh Hashanah. Nachon, il y a cette dimension-là. À l'époque, Bagalout, on était dans la nuit. Donc, comme on était dans la nuit, il y avait cette dimension de Esther Panim. Mais là, on est en train de tout dévoiler. Là, les slichot aujourd'hui, c'est l'échographie. C'est en gestation, mais pourtant tout le monde est au courant. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, Nachon, tout se prépare, mais sache que ça se prépare. Comme si on voulait dire maintenant qu'on n'est plus prêt à ne pas dévoiler ce qui est en train de se mettre en place. C'est les Yamim Noraim de notre époque. Mais comme on a besoin d'un truc officiel, alors on a arrangé Aseret Yemei Tshuva après Yom Kippour. Mais ce n'est pas les mêmes. Aseret Yemei Tshuva entre Yom HaKippourim et Hoshana Rabba. Les Mekoubalim nous ont enseigné que c'est 10 jours également, mais qui ne sont pas Tshuva, l'Omi Yirav et l'Omi Ahava et la Misimcha. Il n'y a pas de slichot en plein milieu de la nuit, mais il y a simchat bet ha-shoeva. C'est une dimension où tu reviens à Kadosh Baruch Hu, mais uniquement besimcha. Et pour ça, tu as eu besoin d'abord de lire Ave Ahava pour grandir. Et donc, en vérité, quand on y réfléchit bien, cette dimension qui commence dès demain, eh bien, c'est un tout. C'est ce qui est caché pour permettre à arriver à ce qui est dévoilé. Seulement, pour y arriver, eh bien, on a besoin de ce chauffard. Et oui, car le chauffard qu'on va ouvrir à Rosh Hashanah, on l'a appris de Yom Kippour. Ça, on l'a déjà étudié, ceux qui étaient avec moi dans différents cours. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut sonner du chauffard à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a marqué Yom Teruah. Mais la Teruah, ça aurait pu être avec la bouche ou avec une trompette. D'où on a appris qu'il faut sonner du chauffard d'Afka Yom Kippour. Yom Kippour chez Yovel, tous les 50 ans, là-bas, il est marqué clairement qu'il faut sonner du chauffard. Et après, la Gemara va apprendre du verset de Yom Kippour pour le verset de Rosh Hashanah, donc on fait du chauffard. Mais ça veut dire que les deux chauffards, les deux moments de chauffard sont intimement liés. Rosh Hashanah et Yom HaKippourim. Eh bien, ce chauffard-là, on a dit tout à l'heure, on devrait sonner que 9 sonneries. On devrait sonner 3 fois, Tekiah, Teruah, Tekiah. Puis on n'en parle plus. Et pourtant, on ne va pas sonner 9 sonneries. On va sonner 100, voire même 101, 101 sonneries. Lama. Eh bien, toute la question est de savoir, c'est quoi Teruah ? Yom Teruah yé lachem. Ma-zé. Ma-zé Teruah. Le-aria, émettre un son. Mais c'est quoi le son ? Alors, c'est quoi Teruah ? Vous savez, vous ? Tu sais, toi, comment on fait Teruah ? Toi, mademoiselle, tu sais comment on fait Teruah ? Tu. T'en connais d'autres des sonneries ? Quoi ? Comment on fait tequila ? Tequila. Et l'autre, c'est Shevarim. Comment on fait ? Et des fois, on fait même un mix. On fait Shevarim Teruah. Ça fait quoi ? Ça fait tout. Donc, on a 3 options. Trois Shevarim ou Shevarim Teruah. Lama. Eh bien, parce que la Teruah, c'est quand quelqu'un pleure. Et la question, c'est comment tu pleures ? Comment tu pleures ? Je pleure jamais, moi. Hey. Ah, tu fais trop de drama ? Attends, c'est obligé, alors.
Mais j'ai commencé l'année.
Ah, tu viens de commencer ? Toi, comment tu pleures ? Moi, je pleure pas, je suis un bonhomme. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je pleure pas, moi. Alors, moi, je pleure. C'est-à-dire, comment on pleure ? Ben, il y a différentes options. Tu pleures parce que t'as l'impression que le monde va s'écrouler et donc tu fais ça, c'est Shevarim. Ou alors tu pleures, t'as plus de contrôle, ça c'est Teruah. Ou alors des fois tu fais les deux parce que tu commences et puis après tu perds le contrôle. C'est pas drôle, je pleure. Mais la question, c'est, est-ce que tu pleures parce que t'es triste ou est-ce que tu pleures parce que t'es joyeux ? on apprend les pleurs de la maman de Sisra. Sisra, c'était notre ennemi. Il fait la guerre contre Israël. Et finalement, il n'est pas revenu du combat. Et sa mère, quand elle a vu qu'il n'est pas revenu, elle s'est mise à pleurer. Mais ce qui n'a pas marqué dans le Tanakh, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les mamans d'Israël qui ont vu leurs enfants rentrer. Elles ont aussi pleuré. Mais de joie. Donc la question est, les pleurs de Rosh Hashanah, elles ne sont certainement pas de tristesse. Ce sont des pleurs de joie. Qui disent quoi ? Qui disent, bah maintenant je vais prendre sur moi la responsabilité de ce monde qui est en gestation. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné à moi la possibilité d'être un partenaire. D'être un partenaire au développement de ce monde. Donc c'est à moi de prendre la responsabilité. Ça me fait pleurer. Mais de joie. Une femme enceinte, elle pleure. Ma femme, elle a pleuré. Et pendant la grossesse, des fois elle pleurait par tristesse. Et des fois elle pleurait de joie. Et des fois elle pleurait, et même elle ne sait pas. Histoire d'hormones. C'est pas. Toute ressemblance avec un cas vécu par certains serait purement fortuit, involontaire, évidemment. Mais on est en train de prendre la responsabilité de ce qui est en gestation. Et quand on te dit tout le temps, c'est pas, faut comprendre que quand on fait des divrei Torah, des vortim, c'est pas que des vortim, il faut tout relier. On n'arrête pas de dire Shira Shirim, Asher Lishlomo, c'est le machal entre le Khatan et la Kala, et c'est qui le Khatan ? Non. Kadosh Baruch Hu. C'est qui la Kala ? Knesset Israël. Donc d'accord, alors ça, alors viens, on va jusqu'au bout du raisonnement. Donc maintenant on est enceinte. Am Israël, il porte sur lui la gestation du monde. Mais Rosh Hashanah, on tombe enceinte. Et on a 6 mois pour se dire, maintenant, je suis responsable de ce monde qui est en train de se mettre en place. Et là, Am Israël, il dit, ok, mais si je veux y arriver, il faut que ce soit tout le monde ensemble. Il faut que ce soit Am Israël qui est responsable de ça. Ce n'est pas que les religieux ou les membres de droite, de gauche. Il faut que ce soit tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que j'ai amené tout à l'heure l'enseignement incroyable du rabbi de Slonim, du Netivot Shalom, qui dit... Qu'est-ce qu'il dit le Baal HaNetivot Shalom ? Il dit que le mot teroua, yom teroua yelachem. D'abord, il y a un truc que... Attends, pas le Netivot Shalom. Le Rachar Hirsch. Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit quelque chose de très bizarre, enfin très fort. Il dit, toutes les autres fêtes dans la Torah, elles ne sont pas d'abord et en premier lieu appelées par leur mitzvah. Quand on parle de Pessah, on ne te dit pas d'abord que c'est yom amatzot. On dit Pessah ou Lachem. Et après, on va te dire qu'il y a des matzot à manger. Alors que là, pour Rosh Hashanah, c'est la seule fête où on te dit d'abord Yom Teruah Yelachem. C'est-à-dire que c'est l'essence de la fête. Mais donc, c'est quoi la Teruah ? Alors on dit, on sonne du chauffard, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire la Haria ? On a dit émettre un son. Alors on dit le rabbi de Slonim, la Teruah, ça peut avoir 2 explications. Soit une déchirure, la Haria, je pleure parce que je suis déchiré, ou alors au contraire, comme on a dit, Léaria troua milachon reout. Ve'afta le reacha kamocha. Yeshpo reout. Quand tu sonnes du chauffard, tu viens montrer qu'il y a une achdout chez le kulam. Et mieux que ça, une achdout ben achatan ve'akala. Et oui, ve'afta le reacha kamocha. Nous dit Razal, c'est qui reacha par excellence? C'est Dieu. Donc il y a cette dimension maintenant de chibour entre Ribono Shel Olam et Sakala, nous. Ah tiens, ça tombe bien parce que c'était quand la Choupa ? C'était quand la Choupa ? À Pessah.
Hein ?
Alors très souvent, on va nous dire que c'est à Matan Torah. Et ben, on te dit que Kafa Lehem Ar Kegigit. Il a pris la montagne, il l'a mis au-dessus. Ben, il a fait la Choupa. Mais nous dit le Gaon de Vilna, en fait, Chagé Tishré, toutes les fêtes de Tishré, parce que vous avez compris maintenant qu'en fait, on ne peut pas dissocier Rosh Hashanah Yom Kippour, ça vous avez compris, mais on ne peut pas dissocier non plus la suite, puisqu'on a dit Aseret Yemei Teshuva qui continue depuis Yom Kippour jusqu'à Hoshana Rabba. Toutes les fêtes de Tishré, nous dit le Gaon de Vilna, c'est Mashal Lechatan Vekala. Rosh Hashanah, c'est le moment où on sort ensemble. C'est une date. C'est date. Non, c'est fait. Mais non, c'est pas une date. Ça, la date, c'était pendant les slichot. Pendant les slichot, on a commencé à discuter. Salut, tu peux venir, je te ramène à quelle heure, machin. Rosh Hashanah, Zahiroussine. Zahiroussine. Après, tu arrives à Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, Zahedher Ichoud. Tu sais, chez les Ashkenazim, quand on a fini la choupa, le Khatan et la Kala, ils vont s'isoler pour la première fois dans une salle. C'est Sayou, c'est Aïchoud ben Khatan Vakala. C'est ce qui se passait quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodeshim. Il nous représentait tous. Il y a vraiment une ardout presque intime entre Ribono et Olam et nous. Donc il y a eu la choupa, le mariage à Rosh Hashanah. Il y a eu la Cheder Ichoud à Yom HaKippurim. Chag HaSukkot, c'est Shiva Yamei Mishteh, Shiva Brachot. Et 7 jours. Et qu'est-ce qui se passe à 7 jours? Qui est le seul qui ne profite pas des Shiva Brachot? Le couple. Alors, s'il y a bien deux personnes qui ne profitent pas des Shiva Brachot, c'est le couple. Tu les balades d'endroit en endroit, ils sont crevés, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, mais forcément, il y a le tonton, le cousin, le truc, le machin. Le seul où il a envie d'aller, c'est le Shiva Brachot de ses copains, mais il n'a même pas, il est pas organisé parce qu'il y a trop de famille. Et que, non, ton père, il te dit, mais tu ne peux pas, tu es obligé, on est obligé d'aller là-bas. Et il ne manquerait plus que le prochain Shiva Brachot, il est dans le Golan et machin. Le Khatan et la Kala, ils sont morts. Vous savez qu'à l'origine, les Shiva Brachot, ça se passait dans la maison du Khatan et la Kala. Je ne sais pas lequel est le moins fatigant ou le plus fatigant. Imagine, pendant 7 jours, tu as tout le monde qui vient. Shiva Brachot. Et puis enfin, arrive la fin des Shiva Brachot. Premier dîner en tête à tête. C'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est tout le monde est parti. Zéou, Zérak, toi et moi. C'est le moment où Be'etzem, on est rentré à la maison. Soukot, on était dans la souka. Oui, on va pas Shiva Brachot, c'est jamais pas de place. Mais à Shmini Atzeret, tu rentres à la maison. Simchat Torah, tu es à la maison. Et ça y est, c'est la vraie vie qui commence. C'est l'union qui est mise en place. Eh bien, les amis, c'est ça qui commence à Rosh Hashanah. On est en train de prendre la responsabilité de ce qui va sortir à Pessah. De ce qui va se mettre en place petit à petit. On en est conscient et on prend cette responsabilité. Pour y arriver, il faut qu'on soit Betroua, Bereout, ensemble. Parce que c'est Klal Israël qui prend cette responsabilité pour montrer à son khatan qu'on est prêt à remplir notre rôle. Eh bien, c'est ça, le secret de Rosh Hashanah. Zebe Rosh Hashanah. C'est le moment qui va déterminer si on a pris conscience de ce qu'on a à faire toute l'année. Et c'est pour ça que le Yom HaDin, jour du jugement de Rosh Hashanah, il n'est absolument pas sur l'année qui vient de s'écouler. Ça sera à la limite à Yom Kippour. Mais il est sur le moment de Rosh Hashanah. Est-ce que tu as conscience de ce qui est en train de se jouer ici et maintenant? Alors maintenant qu'on en a conscience, eh bien on va pouvoir passer une année de folie. Fort de notre réalité, eh bien on va pouvoir prendre la responsabilité du monde pour dévoiler quelque chose de fantastique à Rosh Chodesh Nissan. Et je vous invite, franchement, moi je le fais, mais je vous invite à le faire aussi, à faire en sorte que votre dîner de Rosh Chodesh Nissan soit au moins aussi grandiose que votre dîner de Rosh Chodesh Tishrei, c'est-à-dire de demain soir. Demain soir, c'est Rosh Hashanah. J'imagine que ça va être la folie. Mais on oublie que Rosh Chodesh Nissan, c'est le moment de la naissance. Et on doit faire aussi un dîner de folie pour justement prendre conscience que c'est pas seulement dans la théorie qu'on a pris la responsabilité du monde, mais également dans la pratique. Bon, vous avez 6 mois pour vous préparer. Sheyeh Shana Tova Lekulam. Chazak u Baruch. Thank you.